savoir comment que je m'aille. Tais-toi et profite du moment jusqu'à ce que je taille. Pourquoi je t'ai pas connu avant? Là, je dois marcher, faire ma maille.
MC Solar pour vous sur Radio de la Paix, extrait d'une version acoustique. Et puis l'artiste revient avec un nouvel album qu'on aura l'occasion de vous proposer après le journal de 7h avec César Yao déjà installé. César, bonjour.
Bonjour Juscelin.
La pleine forme ce matin.
Vous l'avez vu tout
ouais,
à l'heure, non?
Vous ne pouvez pas nous dire le contraire.
Avec des quelques
gestes gymnastiques,
hein.
C'est important ça.
Non, on est sportif quand même. Hein.
Bien sûr, évidemment. Okay. César Yao qu'on retrouve pour les 7h, restez sur Radio de la Paix.
Radio de la Paix, il est 7h. Le journal de 7h, César Yao.
Bonjour à tous, tout de suite le sommaire de ce mardi 7h. La décentralisation et les défis du développement territorial aux 4 décennies d'expérience africaine et internationale. C'est le thème de la 14e édition des journées géographiques qui a lieu en ce moment même à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody. Les conclusions de ce colloque permettront aux acteurs d'améliorer les différentes réformes initiées. Amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens au terme d'une mission de suivi des actions menées dans la mobilisation des récepteurs intérieurs de la santé et de l'éducation auprès des bénéficiaires. Les différentes parties ont exprimé leur satisfaction quant à l'exécution du projet sur le terrain, dont le défi principal reste la pérennisation. Dans l'actualité internationale, au Mali, attaque terroriste meurtrière près de Gao, près de Sikasso. Bavure de l'armée Amstrakad près de Gao. Jean-Mélène Biti passera en revue les titres des journaux ivoiriens du jour. Et en fin d'édition, l'invité de la rédaction, Junior Cardin, recevra Dr. Arthur Manga, enseignant d'histoire, spécialiste des relations internationales, pour aborder la question relative à la rupture de la coopération militaire entre le Niger et les États-Unis. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. La 14e édition des Journées géographiques se tient du 18 au 21 mars 2024 à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody. Celui-ci porte sur le thème, eh bien, la décentralisation et les défis du développement territorial, 4 décennies d'expérience africaine et internationale. Les détails dans ce compte-rendu de Jean-Claude Mabia.
Les raisons du choix de la décentralisation comme thème de ce colloque ont été expliquées par la présidente de l'Association des géographes de Côte d'Ivoire, professeure Céline Bicou.
Cette année, nous avons décidé de porter notre réflexion sur les questions de décentralisation. Parce que la décentralisation est un modèle que la plupart des sociétés ont trouvé pour rapprocher les pouvoirs publics des populations et d'adresser leurs besoins. Et depuis une quarantaine d'années, ce genre d'activité ont lieu et nous voulons nous arrêter pour faire un bilan, pour voir ce qui se passe chez nous et ailleurs, parce qu'on a des occasions de discuter donc entre scientifiques pour voir comment cette décentralisation marche ou pas ailleurs. Quels sont les défis, quels sont les enjeux, quelles sont les contraintes qu'on peut avoir dans cette décentralisation.
Le thème de ce colloque est donc d'actualité, d'où l'intérêt qu'accorde Yapi Fidèle, le directeur général de la décentralisation et du développement local.
On ne peut pas parler de géographie et ne pas parler de la décentralisation, parce que la géographie c'est la science de l'espace. La décentralisation c'est un processus pour organiser l'espace et c'est de bon aloi que l'université convie le ministère de l'Intérieur à participer à ce colloque. Et nous nous en réjouissons puisque nous sommes en pleine réforme et les conclusions de ce colloque nous permettra d'améliorer les réformes que nous avons initiées.
Cette première journée a été marquée par la conférence inaugurale animée par le professeur Owo Assé. Sepo, président de l'ASCAD, suivi de la visite des stands.
Voilà Jean-Claude Mabéa qui nous parlait de la 14e édition des Journées géographiques. Eh bien, cette 14e édition qui portait sur le thème « La décentralisation et les défis du développement territorial ». Le Conseil régional du Kyologo ambitionne de prioriser l'employabilité des jeunes et des femmes dans la perspective de leur autonomisation. C'est la principale décision qui a sanctionné les travaux de la première session 2024 de cette institution tenue le samedi 16 mars à Kong, d'où nous appelle Joseph Fassalé, notre correspondant régional dans le Bekker.
Le président du conseil régional du Kyologo s'est félicité des équipements socio-communautaires de base réalisés en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Téné Bireima Ouattara.
Les cinq dernières années, nous avons fait un certain nombre de réalisations que nous pensons pouvoir continuer encore pendant ces cinq prochaines années, que ce soit en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'infrastructure routière.
Il a annoncé que pour les années à venir, la priorité reste l'employabilité des jeunes et des femmes.
Un chapitre qui nous concerne, qui nous touche particulièrement, sur lequel nous sommes très sensibles, c'est celui de l'employabilité des jeunes. C'est vrai, nous avons mis ce mandat sous donc, le sceau de l'employabilité des jeunes. Nous allons nous y employer et bien entendu créer aussi des activités rémunératrices pour nos sœurs, les femmes.
Le préfet de la région du Kyologo a pour sa part engagé les conseillers régionaux quant à leur responsabilité dans la planification du développement local. Souris Jean-Pierre.
Vous avez la responsabilité de définir les grandes orientations stratégiques et de mettre en œuvre les politiques publiques qui permettront à notre territoire de triompher des crises et de se préparer pour l'avenir. Vous êtes à ce titre les acteurs clés de l'essor économique, social, environnemental et culturel de notre région. Vous avez les compétences.
Il a souligné qu'en matière de progrès, la région de Kyologo est sur la bonne voie. Joseph Assalé, Kong, Radio de la Paix.
Autre chose dans ce journal, en vue de consolider les liens de fraternité, de paix qui existent entre les Ouais résidents dans le département de Biankouma et leurs tuteurs, dans l'association des guerriers résidents dans ce département vient d'organiser une journée de retrouvailles pour signifier à leurs tuteurs leur participation active au développement. Plus de détails avec Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tonkpi.
Ambiance bon enfant que le peuple Ouai, résident dans le département de Biankouma, marque toute leur reconnaissance à leur tuteur dans la teneur avec le président de la dite association, P. Bertin Jérôme.
Nous avons toujours vécu en parfaite harmonie ici dans le département de Biankouma avec nos tuteurs dans. Et c'est cette tranquillité qui nous a poussé à créer cette association dénommée AGRDB. Entendez, l'association des guerriers résident dans le département de Biankouma est là pour mission de susciter une solidarité agissante entre ses membres, promouvoir la solidarité, l'esprit d'équipe et surtout d'être un partenaire au développement.
Le parrain de la cérémonie, fils et cadre de la région de Biankouma, Dr Deli Mamadou, salue l'initiative en ces termes.
En acceptant de parrainer cette cérémonie, je m'inscris parfaitement dans la droite ligne de ce que nous devons travailler à la cohésion sociale dans nos communautés. Nous devons travailler à la solidarité dans nos communautés, comme le dit le président Hassan Ouattara, à tous les cadres, à tous les fils de ce pays, de solidariser, de répondre, n'est-ce pas, aux attentes de nos parents, d'où qu'ils viennent, quelles que soient, n'est-ce pas, les différences entre ces différentes communautés. Merci d'être venus nombreux. Sachez que vous pouvez compter sur nous. Nous nous inscrivons dans l'intérêt de Biankouma.
Notons que Biankouma continue de prendre sa place dans la promotion de la paix. Stéphane Adams, Biankouma, Radio de la Paix.
La coordination du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens et la Banque mondiale ont bouclé récemment à Yamoussoukro une mission de suivi des actions menées dans les secteurs de la mobilisation des recettes intérieures, de la santé et de l'éducation auprès des bénéficiaires du projet. Les différentes parties ont au terme de cette mission exprimé leur satisfaction quant à l'exécution du projet sur le terrain. Elles ont toutefois pointé du doigt quelques défis qui restent à relever. Témoin pour Radio de la Paix, Emilia O.
Démarrée à Abidjan, la mission s'est poursuivie à l'intérieur du pays avec les étapes de Korogo, Boaké et Yamoussoukro. Yao Madeleine, coordonnatrice du PAGDS, projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens.
Nous sommes venus sur le terrain pour apprécier l'état d'avancement des différents projets et surtout la fonctionnalité de tous les outils que nous avons installés déjà. Globalement, nous sommes satisfaits des résultats parce que nous avons vu une administration prête au changement.
Au-delà de ce satisfecit, quelques défis restent toutefois à relever, explique Saïdou Diop, chargé du PAGDS à la Banque mondiale.
Au niveau du secteur de la santé, le déploiement du système d'information hospitalier, nous avons pu nous rendre compte des difficultés, surtout au niveau de la connexion, mais également la disponibilité de certaines ressources humaines, notamment en matière informatique, qui nécessitent donc un renforcement. Les problèmes de stabilité également de l'électricité dans certaines zones comme Boaké. Et nous avons pris bonne note de ces défis.
Les bénéficiaires, à l'image de Dr Kofi Justine, directrice de CHR de Yamoussoukro, ne cachent pas leur satisfaction face à l'impact positif des différents projets.
Nous bénéficions du projet SIH, le système informatique hospitalier. Et ça nous apporte un plus dans la mesure où il y a moins de perditions. Nous passons au niveau des recettes du simple au triple.
Ce projet, d'un montant global d'environ 195 millions de dollars, clôture le 31 décembre 2025 et le défi principal à relever reste sa pérennisation. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
À l'occasion d'une mission de la Banque mondiale sur le système d'information en milieu hospitalier à la protection maternelle et infantile de Boaké-Sokoura le mercredi 13 mars dernier, le directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a exhorté ses collaborateurs à soigner leur image par l'amélioration de la qualité de l'accueil dans les formations sanitaire et aussi à administrer des soins humanisés aux patients. Docteur Aka Kofi Charles.
Notre système de santé a un problème. C'est tous les jours que vous voyez sur les réseaux sociaux les récriminations des populations. À tort ou à raison, mais très souvent à raison. Parce que l'image que notre système dégage auprès des populations n'est pas une bonne image. Et il nous appartient de faire en sorte d'améliorer cette image et notamment d'améliorer l'accueil. Mais je crois qu'il faut améliorer la communication. Ceux qui viennent à nous là, c'est nos parents. Personne ne vient à un hôpital parce qu'il est content. Quand quelqu'un vient dans un hôpital, c'est qu'il est dans une situation de peur. La personne pense ne sachant pas donc ce qu'elle a. Elle pense que les minutes qui suivent là, si on ne s'occupe pas d'elle, elle va mourir. Donc nous, il nous appartient de comprendre cet état d'esprit. Il a besoin d'être rassuré. D'où l'amélioration de l'accueil. Ce qui nous oblige à mettre en place un système ou un circuit dont le point de contact doit être formé. Parce que l'image ou le mauvais accueil part du point du premier contact. C'est lui à qui le patient a fait premier contact. Ce qu'il dit est très important. Parce qu'à partir de là, la personne déjà se fait une idée et tout ce qui va venir après va se gâter. Donc cela nous oblige à nous surpasser, à nous donner corps et âme, mais à avoir le cœur à l'œuvre et à vous donner des soins, ce qu'on appelle les soins humanisés. Travailler à l'hôpital ou travailler dans un centre de santé n'est pas comme travailler dans tous les autres services. Nous sommes un secteur sensible, un secteur où quand quelque chose est gâté, on ne peut plus réparer.
Voilà, c'était Dr Aka Kofi Charles, directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Dans l'actualité internationale au Mali, le week-end du 16-17 mars 2024 a été chargé sur le plan sécuritaire. Les terroristes du Jim ont attaqué samedi un camp militaire de Dangereso, région de Sikasso, dans le sud du pays. Ce groupe lié à Al-Qaïda revendique la mort de 10 soldats maliens, tandis que l'armée malienne assure avoir repoussé l'attaque cette dernière affirme également avoir neutralisé plusieurs terroristes grâce à des frappes aériennes dans la nuit de samedi à dimanche à Amchraka, de région de Gao, dans le nord du pays. Selon nos confrères de Radio France Internationale, les sources locales et sécuritaires, ce sont 13 civils qui ont été tués. La ville de Gao a également été visée par des tirs d'obus samedi soir qui n'ont pas fait de victimes. À présent, la revue des titres des journaux ivoiriens avec Jean-Mélène Bitti. Bonjour Jean-Mélène.
Bonjour César, bonjour à tous. La compétitivité de l'économie et la gestion saine des finances ivoiriennes attire le regard des bailleurs de fonds sur la Côte d'Ivoire. Sur ce sujet, l'avenir fait savoir que la Société financière internationale SFI va doubler ses financements en Côte d'Ivoire. L'expression lui revient sur ce que Mambé et la délégation de la SFI se sont dit hier. Soir Info de son côté sur cette audience de la délégation de la SFI avec le Premier ministre est plus précis. Sur l'enveloppe que veut investir la SFI en Côte d'Ivoire cette année, qui est de 240 milliards de francs CFA. L'autre actualité qui a retenu l'attention des quotidiens ivoiriens est l'opération d'assainissement de la ville d'Abidjan lancée par le district d'Abidjan. À ce propos, le Jour Plus annonce que la guerre contre les mendiants a commencé. Il est suivi par Le Matin qui affiche à sa une « District d'Abidjan, Bakongo déclare la guerre à l'insalubrité et à l'incivisme ». Au nombre de l'actualité de cette revue des titres, figure la volonté du gouvernement ivoirien à crédibiliser les examens et concours. À ce niveau, le Jour Plus annonce à sa une la satisfaction de la ministre Anne Ouloto concernant l'organisation des concours de la fonction publique et de l'ENA 2023. Anne Ouloto s'invite à la une du matin. Elle exhorte les Ivoiriens à s'inscrire dans la vision d'une Côte d'Ivoire de valeur prônée par le président Ouattara. Fonction publique, transparence dans l'organisation des concours. Anne Ouloto dévoile sa stratégie, renchérit l'expression. Pour faire complet sur ce sujet, Fraternité Matin indique que cap est mis sur la digitalisation complète, parlant des concours administratifs. Cet appel du médiateur de la République des élections sans violence en 2025 figure en bonne place dans la revue des titres de vos journaux de ce jour. À ce propos, c'est Fraternité Matin qui ouvre ce chapitre en titrant « Présidentielle 2025, Tungara veut un climat apaisé. Consolidation de la paix depuis Yamoussoukro à Damato. Tungara, il nous faut aller au-delà et réfléchir sur des actions innovantes », écrit Soir Info. On termine cette revue des titres de vos journaux avec un mot de sport. Trois joueurs des éléphants de Côte d'Ivoire déclarés forfait pour les prochains matchs amicaux. Sur ce sujet, le Soir Ivoirien et l'avenir, titre éléphants, matchs amicaux, Seko, Sangaré et Indika, forfait et remplacé. Voici l'essentiel de l'actualité vue par vos journaux de ce jour à vos kiosques à journaux. Merci et bonne lecture.
Voilà à l'instant la revue des titres des journaux ivoiriens du jour avec Jean-Mélène Bitti. À présent, l'invité de la rédaction, Junior Cardin reçoit Dr. Arthur Banga, enseignant d'histoire, spécialiste des relations internationales. Ils évoquent dans cet entretien la question relative à la rupture de la coopération militaire entre le Niger et les États-Unis.
Arthur Banga, bonjour.
Bonjour.
On apprend que le Niger est en train de rompre sa coopération militaire avec les États-Unis. Et quelle analyse vous faites d'une telle décision?
On peut dire que le Niger est dans la logique de la logique et la sienne depuis le coup d'État, c'est-à-dire essayer de rompre avec pour ceux qui ne l'encouragent pas ou qui ne s'inscrivent pas dans cette démarche junte. C'était d'abord la France, puis la CEDEAO. Au début, les États-Unis semblaient tergiverser, semblaient espérer tout au moins une transition rapide. On voit que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les choses se gâtent entre ces deux partenaires et la jeune sort à tout qu'elle sort d'habitude, celui de rompre la coopération militaire.
Et on apprend même qu'une délégation américaine n'a pas pu se faire recevoir par le président de la transition. Seulement, cette délégation a été reçue par le Premier ministre.
Oui, c'est sans doute l'un des signes que le malaise était de plus en plus profond entre les États-Unis et la junte nigérienne. C'est l'un des symboles qui s'est confirmé par la décision nigérienne de rompre la coopération militaire avec les États-Unis.
Mais quelle était la qualité de ces rapports-là entre le Niger et les États-Unis d'Amérique? Pourquoi aujourd'hui on parle de rupture de coopération militaire?
Le Niger étant dans Israël avec la menace terroriste a été mis au cœur de la stratégie américaine dans Israël depuis plus de 10 ans. L'accord dont il est question remonte à 2012. L'idée était que les États-Unis puissent avoir une base au Niger qui puisse permettre de participer à la lutte contre le terrorisme en Afrique. Donc cette présence militaire américaine est la deuxième plus importante sur le continent après celle de Djibouti. Le changement de régime, l'arrivée des militaires au pouvoir au Niger a suscité les inquiétudes des Américains, mais ceux-ci ont conservé leur coopération militaire, espérant sans doute un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Et cette exigence a dégradé les relations entre le pouvoir du Niger et les États-Unis.
Mais professeur Toubanga, et pourtant on se souvient que quand il y a eu le coup d'État au Niger, les États-Unis ont fait partie des pays les moins accusateurs.
Oui, sans doute espérait-il que la junte revienne tout au moins rapidement à l'ordre constitutionnel. C'était déjà l'idée des Américains, à défaut d'un retour immédiat. Président Bazoum, et là, on ne prend pas le chemin d'un retour rapide à la constitutionnel.
Donc, on pourrait dire que tout est sur le point d'être gâté entre les deux pays.
En effet.
Et quelles pourraient être les conséquences d'une telle option pour le Niger?
Pour le Niger, c'est aussi un boulevard qui se dégage pour une meilleure relation avec la Russie via Wagner, comme le font les leurs voisins du Mali et du Burkina. C'est sans doute l'option qui sera la plus privilégiée, parce que la nécessité pour le Niger d'avoir un partenaire dans cette lutte contre le terrorisme est encore importante. On peut donc imaginer que dans les semaines qui suivent, il y aura un renforcement encore plus important de l'axe Moscou-Niamey.
Mais cette ouverture avec la Russie, est-ce qu'on la voyait venir ou bien c'est une décision prise comme ça sur un coup de tête, puisque tout compte fait, le coup d'État s'est perpétré il n'y a pas longtemps?
Non, on la voyait venir, il y avait des signaux importants. À partir du moment où le Niger, le Burkina et le Mali ont décidé au sein de l'AES d'avoir des relations beaucoup plus étroites, il va sans dire que leurs partenaires sont en commun. Et aujourd'hui, pour la Russie, la stratégie d'implantation en Afrique passe désormais par le Sahel, où des jeunes militaires sont au pouvoir.
Et donc, vous, en tant que spécialiste, analyste politique, quel est le message que vous voudrez bien adresser, aussi bien, hein, si cela était possible, au pouvoir nigérien et au pouvoir américain?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, le fond du problème, c'est sorti de ce régime d'exception. Je pense qu'il ne revient pas à des jeunes qui ont fait des coups d'État d'imposer de nouveaux calendriers diplomatiques à ces pays, parce qu'ils n'ont pas la légitimité populaire. Et aujourd'hui, le problème de légitimité populaire est conféré par les autres. Et je pense que tout ce qui peut nous sortir de toute cette tension entre le Niger, la CEDEAO, le Niger, les États-Unis, le Niger, la France, c'est d'avoir le territoire constitutionnel et permettre à un régime choisi par les Nigériens de pouvoir orienter la politique étrangère du pays.
À vous entendre, le régime militaire n'a ni la légitimité populaire, ni la légalité, et pourtant, ils prennent des décisions d'une telle ampleur. Que faire?
Parce qu'ils ont l'autorité de fait. Aujourd'hui, ils ont l'autorité de fait. Ce sont eux les autorités. On est obligé de composer avec.
On ne peut rien faire, hein?
On ne peut rien faire parce que toutes les solutions prises par la CEDEAO n'ont pas abouti, faute de soutien de pays comme les États-Unis, justement.
Pratu Banga, merci beaucoup.
Merci.
Voilà, Junior Cardin recevait dans le cadre de l'invité de la rédaction Dr Arthur Banga, enseignant d'histoire, spécialiste des relations internationales. Voilà qui met un terme à cette édition. Tout de suite, le rappel des principaux titres à la une de l'actualité. La décentralisation et les défis du développement territorial, 4 décennies d'expérience africaine et internationale. C'est le thème de la 14e édition des journées géographiques qui a lieu en ce moment à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cocody, les conclusions de ce colloque permettront aux acteurs d'améliorer les différentes réformes initiées. Amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens au terme d'une mission de suivi des actions menées dans la mobilisation des recettes intérieures, de la santé et de l'éducation auprès des bénéficiaires. Les différentes parties ont exprimé leur satisfaction quant à l'exécution du projet sur le terrain, dont le défi principal reste sa pérennisation. Dans l'actualité internationale au Mali, attaque terroriste meurtrière près de Sikasso, bavure de l'armée à Amsrakad près de Gao. Fin de ce mardi 7h, retour à l'actualité 8h.